Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François plaide en faveur d'une culture de la rencontre. Il s'exprimait dans un message vidéo diffusé à l'occasion de la fête de Saint-Gaëtan de Thiennes, très populaire en Argentine. On y revient dès le début de ce magazine. La Côte d'Ivoire chemine sur la voie de la réconciliation. Le gouvernement vient d'accorder une mise en liberté provisoire à 14 proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Témoignage dans cette édition du directeur du Centre de recherche pour la paix en Côte d'Ivoire. Vous entendrez également, dans le cadre de nos rediffusions estivales, le père Bernard Hugueux, missionnaire en République démocratique du Congo. La situation dans le pays est de plus en plus inquiétante. Parmi les nombreuses violences en augmentation, le viol des femmes, une blessure qui gangrène le pays. Bienvenue dans notre magazine. Depuis Rome, le pape François s'est adressé aux Argentins à l'occasion de la fête de Saint Cayetano. Le sanctuaire Saint Cayetano, Saint Gaëtan de Thiennes, patron en Argentine du pain et du travail, se trouve dans un quartier périphérique de Buenos Aires. Chaque année, le 7 août, des milliers de fidèles se mettent en file indienne pour passer devant la statuette du saint et prier. Toutes les heures, une messe est célébrée. À l'issue de la célébration qu'il présidait, le cardinal Bergoglio avait l'habitude de remonter la file des pèlerins pour discuter avec eux et bénir les enfants. Cette année, celui qui est devenu pape a enregistré un message vidéo pour tous ses pèlerins, dont beaucoup furent ses voisins. Olivier Bonnel.
Le pape, comme il ne cesse de le faire depuis le début de son pontificat, a une fois de plus prôné la culture de la rencontre avec les plus démunis. « Je suis un peu loin de vous et ne peux partager avec vous un moment aussi beau », a-t-il regretté, avant de s'attarder sur le thème choisi par les pèlerins cette année, avec Jésus et Saint Cayetano, « Allons à la rencontre des plus nécessiteux ». La chose importante est bien de ne pas les regarder de loin, a indiqué le Saint-Père, mais bien d'aller à leur rencontre, à l'image de Jésus qui allait trouver les plus pauvres. Le pape argentin a ensuite évoqué ses souvenirs lorsqu'il posait la question de l'aumône aux plus pauvres. En parlant avec eux, la plupart des gens expliquaient qu'ils n'osaient ni regarder ni toucher la main du plus vulnérable. « Si tu ne l'as pas touché, alors tu ne l'as pas rencontré », expliquait alors le cardinal Bergoglio. « Nous devons apprendre à rencontrer, apprendre à édifier une culture de la rencontre », a-t-il insisté, « dans les familles, dans les quartiers, dans le travail, en tout lieu. » Cette rencontre ne se fait pas seule, mais avec l'aide de Jésus et de Saint Cayetano. Ne va pas à la rencontre de l'autre pour le convaincre de devenir catholique. Non, non, va le rencontrer parce qu'il est ton frère, a précisé le pape dans son message, dans un style très direct qu'on lui connaît désormais. Si tu vas l'aider, Jésus et l'Esprit Saint feront le reste. C'est cette rencontre avec les plus pauvres qui permet au cœur de grandir toujours plus, a conclu l'ancien archevêque de Buenos Aires, parce que la rencontre multiplie la capacité d'aimer.
Saint Gaëtan de Thiennes est né en 1480 à Vincennes et mort à Naples en 1547. Il a été canonisé le 12 avril 1671 par le pape Clément X. Après avoir prié sur la tombe de Paul VI mardi après-midi, 35 ans après sa mort, le pape François a rencontré devant la maison Sainte-Marthe un groupe de jeunes de Brescia en Lombardie, actuellement en pèlerinage. Ils ont rejoint Rome après avoir marché 140 km pour commémorer l'anniversaire de la mort du cardinal Montini, originaire de la région de Brescia. Selon le responsable du bureau de la spiritualité et des vocations du diocèse de Brescia, Don Alessandro Tucinardi, le pape s'est montré très heureux d'accueillir ces jeunes dont il apprécie l'attitude. Les pèlerins lui ont rappelé des messages qu'il avait lancés lors des Journées mondiales de la jeunesse de Rio. Le groupe a offert à François une salière car il avait déclaré que le renouvellement de l'Église par des jeunes qui doivent mettre du sel, de la foi, de l'espérance et de l'amour dans leur vie quotidienne. En réponse, le pape les a encouragés à vivre de façon pleine et avec sérieux. « C'est cette vie-là qui nous apporte de la joie », a déclaré le pape François. Le cardinal Peter Turkson poursuit son déplacement au Japon à l'occasion des 10 jours pour la paix qui commémorent les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki survenus respectivement le 6 et le 9 août 1945. Le président du Conseil pontifical, Justice et Paix, a pris la parole mardi à Hiroshima dans le cadre d'une réunion interreligieuse organisée par le Centre pour le dialogue et la paix mondiale. Dans son discours, le cardinal Turkson a rappelé la nécessité de ne pas ignorer, marginaliser ou exclure une partie de la société. Un appel lancé par le pape François lui-même lors de sa visite dans une favela à Rio de Janeiro le 25 juillet dernier. À cette occasion, le Saint-Père avait mis en garde contre une culture du rejet et plaidé en faveur d'une culture de la solidarité qui prenne le pas sur l'égoïsme et l'individualisme. Soulignant que les véritables processus de pacification doivent intégrer également les périphéries, le cardinal Turkson a ensuite prié pour les victimes des bombardements atomiques, appelant toutes les grandes traditions religieuses et spirituelles de l'Asie à travailler ensemble en faveur de la paix. La Côte d'Ivoire célébrait ce mercredi 7 août le 53e anniversaire de son indépendance. Un anniversaire placé sous le signe de la réconciliation. En début de semaine, le gouvernement a pris une décision symbolique. Il a accordé une mise en liberté provisoire à 14 proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, dont son fils. Ces derniers sont détenus depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Une crise qui divise encore le pays en deux camps, les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, actuel président. Par cette décision, le gouvernement ivoirien espère apaiser le climat sociopolitique et faciliter la réconciliation. Où en est cette réconciliation? Est-ce que la question de la nationalité fait encore débat? Et comment le pays résiste-t-il face à l'instabilité régionale? Écoutez le témoignage du père Hyacinthe Loua, le directeur du Centre de recherche pour la paix, une œuvre de la Compagnie de Jésus qui promeut l'éducation à la dignité humaine en Côte d'Ivoire.
Depuis 2010, 2011, 2012, nous parlons de réconciliation et nous travaillons pour la réconciliation. Il faut donc donner le temps au temps. Il faut tenir compte des blessures, il faut tenir compte de la guérison et quand on parle de guérison, ça prend du temps. Et donc, il faut au moins des années encore pour qu'on puisse parler de l'union des cœurs et d'esprit.
Quelle est l'attitude de la population?
Tout le monde recherche la réconciliation. Maintenant, il faut arriver à convaincre certaines personnes qui ont été manipulées, soit par des politiciens ou soit par des gens qui ont un certain pouvoir sur eux. Et dans ce cas, il y a une petite résistance. Mais chaque fois que nous abordons la question de paix et de réconciliation, à ce niveau, les gens sont généralement disposés à discuter avec nous, disposés à entrer dans le processus de réconciliation que nous leur proposons. C'est eux-mêmes qui font le processus de réconciliation.
Est-ce que la question de la nationalité fait encore débat?
C'est évident, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a accueilli plusieurs personnes de différentes nationalités. On parle souvent de 4 millions de Burkinabés. Il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a des Béninois. Tout le monde sait qu'il y a différentes nationalités. Et le but du travail de réconciliation ou de paix qui se fait par les ONG, tant nationales qu'internationales, c'est justement l'intégration de toutes ces personnes. Ils sont appelés à vivre cette intégration sociale et culturelle.
Et qu'en est-il de la progression de l'islam?
Hier, par exemple, nous avons eu un imam qui me disait que c'est ce travail que nous faisons sur le terrain et ça fait que beaucoup de jeunes s'engagent progressivement. Et c'est la progression même de l'islam partout en Afrique de l'Ouest maintenant.
Et est-ce que vous pensez que ça peut diviser la population ivoirienne, cette progression de l'islam?
Comme disait l'imam, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui nous unit d'abord. Ce n'est pas la religion qui vient diviser. La religion ne divise jamais. C'est la manipulation de la religion par les politiques qui pose problème. Alors, si la religion est manipulée par ceux qui sont intellectuels et qui sont économiquement très forts, alors l'islam va de travers. Et donc, il peut y avoir un problème entre les populations. Mais pour l'instant, l'islam ne pose pas de problème.
Et est-ce que vous pensez vraiment que les politiques peuvent chercher encore à manipuler la population?
Mais tant qu'il y a des intérêts politiques qu'on veut sauver, tant qu'il y a des intérêts politiques qu'on veut, coûte que coûte, mettre en avant, même quand la base ne comprend pas, on va toujours manipuler. Et je vous ai parlé même de la manipulation de la religion. Et ça, ça vient d'un imam. Ça veut dire quoi? C'est même les politiques, à partir de leurs propres intérêts, ils veulent que tout le monde entre dans leur lutte politique. Et Et dans ce cas, parfois, les populations sont dedans sans savoir exactement pourquoi ils se battent. Ce qui n'est pas normal. Le problème, c'est au niveau des politiques et au niveau de la base. Comment réconcilier les deux?
Mais comment, selon vous, ça peut se résoudre concrètement?
Si vous avez une population analphabète, tout ce qui vient de loin, parlant dans une langue compliquée, on peut accepter facilement de s'engager dans un mouvement sans savoir exactement quelle est l'intention, quel est le motif, quel est l'objectif du mouvement. Mais quand vous formez ces populations, vous formez la base, ils seront capables de comprendre le discours que les politiques tiennent. Et à ce moment, ils pourront choisir où ils pourront agir. Et donc, je crois beaucoup à la formation.
Et la Côte d'Ivoire est aussi fragilisée par l'instabilité politique en Afrique de l'Ouest.
On ne peut pas dire clairement quelles peuvent être les conséquences de ces crises ici en Côte d'Ivoire, mais au moins quand il y a une crise au Mali, en Guinée, ici en Côte d'Ivoire, on le sent. On sent que le peuple n'est pas content, on sent que le peuple veut faire quelque chose. On sent une certaine instabilité.
Le père Hyacinthe Loua, interrogé par Audrey Radondi. Les conditions de vie de la population sont de plus en plus préoccupantes dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Hommes, femmes et enfants sont pris en étau dans les combats qui opposent les milices armées et l'armée gouvernementale. Une lutte qui fait rage depuis 3 ans dans cette région des Grands Lacs, en particulier autour de la ville de Goma, la capitale régionale. En RDC, plus vaste pays d'Afrique, les groupes armés, les convoitises des pays voisins et les violences récurrentes laissent une population civile dans le plus grand dénuement. Le président du Secours catholique, François Soulages, s'est rendu sur place au début du mois de juillet. Il dresse un constat alarmant de la situation. Xavier Sartre.
Le nord-est de la RDC est devenu au fil des mois un pays de déplacés. Ainsi, Goma a accueilli près d'un million de personnes, des populations venues des montagnes de l'intérieur du Congo qui ont fui les groupes armés. Les réfugiés vivent dans une trentaine de camps de tentes, envahissant tous les espaces possibles et coupant les arbres autour pour se chauffer, explique François Soulages. Ils n'ont aucune ressource et dépendent du Programme alimentaire mondial avec qui la Caritas Goma travaille pour la distribution de nourriture. Le président du Secours catholique fait état de pillages en règle des groupes armés qui terrorisent la région. Les paysans n'ont plus d'outils, ni tracteurs, ni attelage de bœufs. Tout a été pris par les groupes armés. La situation est également critique à Bukavu, dans le sud Kivu. Il y a 10 ans, explique François Soulages, cette ville de 200 000 habitants disposait d'eau et d'électricité courante. Aujourd'hui, avec 1 million de personnes supplémentaires, il y a des coupures d'électricité constantes et quasiment plus d'eau potable. Dans ce pays où l'État a disparu, les ONG sont le seul recours pour ces populations. Et l'Église ne ménage pas ses efforts, notamment à travers le réseau des Caritas locales, qui sont soutenues par le Secours catholique. La priorité actuelle est de travailler sur l'accès et la qualité de l'eau en permettant aux populations locales de devenir actrices de leur développement. C'est la volonté de l'Église catholique, indique François Soulages, et la mise en place des communautés ecclésiales vivantes sur tout le territoire, très diverses dans leur action. L'Église en RDC est ainsi aujourd'hui un vrai facteur de progrès, souligne le président du Secours catholique. Elle tente de remplacer un État défaillant.
En juillet dernier, le secrétaire général de la conférence épiscopale de RDC, le père Léonard Santédi, lançait un appel pressant et pathétique aux Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Union africaine et au gouvernement des autres pays impliqués de quelque manière que ce soit dans cette guerre, afin qu'ils s'engagent résolument à mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. République démocratique du Congo pour la dernière partie de ce magazine qui est une rediffusion. Parmi les violences qui ravagent le pays, le viol des femmes, utilisé comme arme de guerre. Depuis 1994 et l'exfiltration des auteurs du génocide rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de femmes se sont fait agresser sexuellement. Un chiffre officiel qui ne représenterait que la moitié des viols commis, les femmes préférant se taire. Victimes des génocidaires, des différentes milices opérant dans la région, ces femmes vivent le plus souvent dans les campagnes, mais aujourd'hui de plus en plus de viols sont également commis dans les villes. Le père blanc Bernard Hugueux, missionnaire depuis 3 ans à Bukavu, revient sur ce drame trop souvent passé sous silence qui détruit ces femmes et mine l'ensemble de la société.
Il y a des viols qui sont faits lorsque les femmes vont au champ, vont marcher, vont se laver à la rivière, etc. Et là, elles peuvent être surprises. Dans certains cas, elles sont carrément enlevées pour devenir esclaves sexuelles dans les groupes, les milices qui sont installées dans des camps, dans les forêts. Alors, il y a d'autres situations où alors il y a une véritable attaque organisée par un groupe armé qui neutralise complètement un village. Et à ce moment-là, c'est le viol en réunion de toutes les femmes du village et en obligeant le mari et les enfants à assister au viol. Puis après ça, on emmène les filles dans la forêt et parfois on tue également le mari et puis on brûle les maisons et on prend tous les biens qui peuvent être utilisés. Et là, on a l'impression que c'est une façon de libérer le terrain en détruisant pratiquement les réseaux sociaux, la famille, la culture même. Le fait, par exemple, d'obliger le mari et les enfants à assister à cela, c'est vraiment une volonté de détruire les liens entre les personnes.
Pourquoi est-ce qu'on n'empêche pas ces viols? C'est quoi les freins?
Il y a bien sûr parmi les causes, d'abord, tout le problème du manque de respect des femmes. Mais alors à côté de ça, effectivement, il y a une impunité généralisée par rapport à ces questions. Ce qui montre d'abord qu'on banalise le fait qu'on a porté atteinte à une femme. Et ensuite, qu'il y a des réseaux qui sont suffisamment puissants pour systématiquement neutraliser les magistrats ou bien payer des sommes pour que le violeur sorte de prison après. C'est ce que disait le responsable de la commission justice et paix à Bukavu quand on posait la question « Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de procès de viol ?» Mais comme dans un très grand nombre de cas, le violeur de toute façon est rapidement remis en liberté, le grand danger c'est qu'alors après, lui, il vient se venger sur la personne qu'il a dénoncée. Donc en fait, on ne dit plus rien. Et donc ça, c'est presque une bénédiction pour les gens qui veulent faire simplement ce qu'ils veulent. Et ça aussi dans la société civile, que ce soit des enseignants avec leurs élèves ou des professeurs d'université avec leurs étudiantes. Enfin, c'est assez dramatique, où dans le fond, on emploie une expression, les MST, vous savez que ça veut dire normalement maladie sexuellement transmissible, mais l'humour congolais dit qu'à l'université, ça veut dire la moyenne sexuellement transmissible. Avec ça, on est sûr de passer, quoi.
Mais alors, vous l'avez dit, la plupart des viols sont quand même dans les zones rurales. Que deviennent les victimes de ces viols? Est-ce qu'elles vont en ville? Est-ce qu'elles sont accueillies? Qu'est-ce qui se passe?
Alors bon, celles qui se sont déclarées, on les accueille, bien entendu. Il y a des hôpitaux qui ont même des départements spécialisés pour ça, spécialement pour de la chirurgie, parce qu'après cela, parfois, il y a des questions de chirurgie. Donc, il y a des centres d'écoute, un accueil psychologique. Le problème aussi, c'est le problème économique, parce qu'en général, ces gens n'ont absolument plus rien du tout. Beaucoup de femmes dont le mari a été tué se retrouvent veuves avec les enfants, ou bien elles ont été chassées avec leurs enfants parce que le mari n'en veut plus, il est humilié, ou bien il a peur d'attraper des maladies sexuelles, etc. Donc, beaucoup de femmes sont totalement abandonnées avec des enfants et viennent donc errer dans les villes. Alors, il y a un accueil, il y a eu une solidarité extraordinaire de la part des gens. Quand je découvre que dans une maison, il y a 20 personnes dont la moitié ne se connaissait pas et a été récupérée, pour, etc. Mais en même temps, ça dépasse les moyens parce que le pays est très, très pauvre. Les gens vivent avec moins d'un euro par jour. Donc, cette solidarité est toujours mise en question par les possibilités réelles. Donc, il y a une immense misère à côté de ça. Il y a la misère psychologique, morale, spirituelle, économique et sociale. Donc, on peut dire que toute la société est traumatisée.
Et si j'ai bien compris, vous aussi, bien sûr, ça ne vous a pas laissé indifférent. Vous avez publié une lettre, moi, homme d'église, à ces femmes. C'était pour leur dire quoi?
Je veux dire que moi, ce qui m'avait particulièrement touché quand je suis arrivé il y a près de 3 ans maintenant à Bukavu, c'est tous ces récits que j'entendais et l'impression que, d'un côté, on faisait de l'aide sur le plan médical et psychologique. On donnait aussi une certaine aide économique quand c'était possible. Mais il y avait tout le problème de la question du sens derrière tout ça. Les gens, spontanément, vont dire « il faut accepter la volonté de Dieu ». Alors évidemment, on leur dit « non, écoutez, ça, c'est pas la volonté de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. » Donc là, vous êtes tombé dans un piège, ça, c'est l'homme, c'est le mal dans l'homme. C'est pas ça que Dieu veut. Et donc, il me paraissait très important de pouvoir dire à ces femmes « écoutez, ça, c'est pas ça que Dieu veut pour vous. » Et le fait que des hommes, au lieu de vous protéger, utilisent leur force physique pour vous réduire à pire qu'un objet, pire que ce que ferait un animal, parce que les animaux ne font pas ça. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans le projet de Dieu. Et moi, en tant qu'homme, je suis profondément bouleversé de voir ce que des hommes comme moi peuvent faire. Et en plus, en tant que prêtre, je suis bouleversé de voir que vous risquez de vous couper de Dieu qui pourrait être votre consolation, parce que quelque part, vous vous sentez abandonné ou vous pensez que Dieu permet ou même veut que certains subissent plus que d'autres. Alors là, il me semblait très important de leur dire non, vous êtes aimés, vous n'êtes pas coupables. Et surtout, croyez que notre Dieu, qui lui-même est passé par une mort horrible, n'est pas indifférent à ce que vous vivez.
Un entretien réalisé par Marie Duhamel. C'est c'est la fin de ce magazine. Merci d'être resté en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur notre page Facebook.